Je pense pas à ma blonde sur la route qui m'amène à me sentir vivant comme un vrai highwayman. Dans l'état du Kentucky, je rêve d'une petite caisse de 12, mais un moonshine ferait l'affaire sur un air de honky-tonk blues. Welcome to Nashville, que c'est qui peut bien arriver? À radio, y'a Lucille, pis du vieux Hank, c'est pas compliqué. J'espère bien qu'un jour, mon voyage sera une chanson qu'on va pouvoir chanter une fois revenu à la maison. On est-tu bien qu'une petite frette, sa galerie chez le grand Gosselin? On voyage en chanson, puis on file jusqu'au matin. On est-tu bien qu'une petite frette, avec les guitares dans le tapis? On se croirait dans un film Country Blues du Tennessee. Seul, on the road, parti pour le sud des États. Je voyage léger comme un pèlerin du country. Il est pas question que je m'ennuie quand je suis dans Music City. Je suis loin d'avoir le cœur gros. I'm no man of constant sorrow. In constant sorrow, through his days. On est-tu bien qu'une petite frette, sa galerie chez le grand Gosselin? On voyage en chanson, puis on file jusqu'au matin. On est-tu bien qu'une petite frette, avec les guitares dans le tapis? On se croirait dans un film Country Blues du Tennessee. Rempli d'images, de légendes, de guitares, du bluegrass plein mes bagages. On va se revoir, moi pis les gars, un beau jour sa galerie. On va chanter cette chanson-là pour les fantômes du country. On est-tu bien qu'une petite frette, sa galerie chez le grand Gosselin? On voyage en chanson, puis on file jusqu'au matin. On est-tu bien qu'une petite frette, avec les guitares dans le tapis? On se croirait dans un film Country Blues du Tennessee. Une petite frette, deux, trois coups de pique, me v'là revenu sa galerie.
Rebienvenue, j'ai raté ce mot-là, à l'émission La Complainte du Travail. On vous rappelle que cette émission-là est présentée par l'organisme Illusion Emploi, un organisme de promotion et défense des droits des travailleurs et des travailleuses non syndiqués. Aujourd'hui, le sujet dont on parle, les frais de scolarité, la hausse, évidemment. Simon, j'imagine, bon là, on a fait un gros topo là, avant de partir en pause les frais de scolarité. C'était basé, j'imagine, sur une recherche. Est-ce que tu peux la nommer?
Oui, en fait, le gros là, de ce qui a été nommé avant la pause, c'est des données là, qui nous sont parvenues depuis l'Institut de recherche et d'information socio-économique, donc communément appelé IRIS.
Alors, si jamais vous voulez en savoir plus, www.iris.quelquechose, vous allez trouver ça assez facilement sur Internet.
Oui, tu appelles ça sur Google, là, IRIS sur Google, puis ressortir assez vite.
OK. Alors, Simon, en terminant, j'ai vraiment un problème de micro, en terminant sur cette portion-là d'émission, est-ce que la gratuité scolaire, tu parlais tout à l'heure que le Québec avait ratifié le PIDES, puis que dans le PIDES, on s'engageait à tendre vers la gratuité scolaire pour les études postsecondaires, c'est-tu quelque chose d'utopique? C'est-tu irréaliste de penser qu'on pourrait un jour au Québec offrir l'éducation gratuite à tous les élèves postsecondaires?
Non, c'est pas irréaliste, c'est pas utopique. Ça coûte, là, pour ce qui est de la gratuité scolaire, là, ce serait un 700 millions de dollars par année qu'on aurait besoin pour ça.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrête, on regarde le nombre d'étudiants et d'étudiantes qui fréquentent nos universités, on calcule le coût de leurs frais de scolarité et ça coûte 700 millions de dollars.
Voilà, ça coûte 700 millions pour qu'une année à l'université, ce soit gratuit, là, ou avec un minimum de frais de livre ou quoi que ce soit, mais que ce soit, il n'y a aucun coût pour les cours et les crédits. Là, ce serait 700 millions.
OK.
Là, regarde, 700 millions comme ça, là, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. 700 millions, c'est gros, c'est pas gros, un État, tu sais. C'est assez complexe, mais juste pour montrer à quel point que pour l'État, comparativement à des choix qu'on a faits, là, c'est pas tant d'argent que ça. Depuis l'an 2000-2001, il y a eu différentes coupures dans les impôts. Et ça touche surtout les classes les plus riches. Donc, on a demandé aux classes plus riches moins d'argent sur les gains qu'ils font.
Et ça, on a vu ça vraiment là, à travers les différents gouvernements en place. Effectivement, il y a eu énormément de baisses d'impôts. Oui, pour la population les plus élevées, mais il y a également, oui, pour les entreprises. On leur a demandé moins en taxes et en impôts de toutes sortes que
les banques
à chaque année, on diminue. Là. Puis même dans les derniers budgets, là, on parle du provincial, mais même au fédéral également. C'est vraiment une tendance encore, là, même en tant que récession, on va permettre aux entreprises de financer moins.
Regarde, juste au Québec. Il y a eu quatre mesures de ce type-là depuis l'an 2000. Et au total, ces mesures-là empêchent l'État de toucher à pratiquement 6,5 milliards de dollars.
On a accordé 6,5 milliards de dollars, un total de 6,5 milliards par année en crédit d'impôt de toutes sortes dans les 10 dernières années. Ouch! C'est beaucoup plus que ce qu'aurait coûté de faire la gratuité scolaire, on s'entend. Là.
Mais c'est 7-8 fois le coût de la gratuité scolaire. Là. Ça, c'est de l'argent qu'on touchait précédemment puis qu'on s'est coupé. Donc, c'est quand même aberrant. Là.
Puis évidemment que quand on coupe dans les revenus de l'État, ben ça veut dire diminution d'investissement dans les programmes sociaux, ce soit au niveau là, de la gratuité scolaire, mais on peut aussi penser à la santé. C'est tous les autres programmes sociaux aussi ont été. C'est de l'argent qu'on n'a pas pour redistribuer ailleurs, là, on s'entend.
Exactement. C'est de creuser le fossé entre la classe riche et la classe moyenne. C'est de privatiser un peu tout. C'est de réduire l'importance de l'État au profit des commerces, des grandes entreprises surtout, là, des banques et tout ça. Là.
Ouais. C'est intéressant à comprendre ça, puis ça démontre à quel point la gratuité scolaire, ce n'est pas utopique, c'est vraiment une question de choix politique.
Exactement.
Vous savez, là, on parle un petit peu de ça et de tout, le gouvernement, puis j'amène la discussion vers ça, le gouvernement, il n'y a pas qu'en éducation hein, où il coupe, où il annonce qu'on va tarifer. Là c'est très de ça qu'on fait. En augmentant les frais de scolarité, on met un tarif à un bien essentiel, besoin essentiel. Un droit. Merci beaucoup, c'est mieux dit comme ça. Mais le gouvernement, il fait ça dans d'autres sphères aussi.
Dans toutes.
Récemment, dans les derniers budgets, il a annoncé l'instauration de la taxe santé. La taxe santé, c'est 50 $ cette année. La prochaine fois que vous ferez vos impôts, c'est 100 $ par personne. Et l'année d'après, ça va être 200 $ par personne qu'on va vous demander pour financer le système de santé. Cet argent-là, ben, c'est de l'argent, là, imaginez-vous que toute personne qui gagne au-dessus de 14 000 et des poussières par année va devoir payer ce 200 $-là. C'est-à-dire que peu importe si vous êtes millionnaire ou si vous faites 15 000 $ par année, vous allez toutes les deux payer le 200 $. Là, on est loin de mesures fiscales progressives. Là, on est vraiment dans le tout utilisateur-payeur, peu importe ton revenu, puis on appauvrit vraiment la population, la portion de notre population les plus défavorisées financièrement. Là. Le gouvernement a aussi annoncé que tous les tarifs d'électricité allaient augmenter. Quand le gouvernement dit ça, il dit souvent « oui, mais j'augmente les tarifs d'électricité, les gens vont moins consommer ». Peut-être que si une personne a deux chalets, un gros char, etc., ben le char d'électricité, on s'entend, c'est moins pire, là, mais va peut-être consommer moins d'électricité. Mais en réalité, ça va affecter énormément la population la plus défavorisée qui n'a pas les moyens de rénover sa maison. On s'entend, il y a plein de petits propriétaires de maisons qui n'ont pas les moyens d'investir dans leur maison. Il y en a d'autres également qui sont en logement. Puis on sait très bien que les logements les moins chers sont souvent ceux qui coûtent le plus cher en énergie, hein, parce qu'ils ne sont pas isolés, etc., ces gens-là vont devoir assumer la totalité de la hausse. Et si jamais le propriétaire de l'immeuble décidait d'investir pour isoler ou refaire les fenêtres, ou peu importe, l'impact que ça va avoir pour le consommateur, le prix de son loyer va augmenter, parce que là, on va avoir mis des investissements dedans, puis on sait très bien que quand le propriétaire peut investir dans son loyer, il a le droit d'augmenter le loyer après. Fait que c'est vraiment, tous ces mesures-là vont avoir comme impact de défavoriser encore la même portion de la tranche que tu nous parlais tout à l'heure.
Ouais.
Oui, les plus défavorisés, et toute la portion qui est entre les deux, qui n'est pas aisée, qui arrive à payer ses comptes, mais qui a quand même de la misère, c'est encore ces gens-là qui vont être pénalisés par des mesures qui ne sont pas progressives. Alors, ce que la coalition contre la tarification et la privatisation de nos services publics propose, c'est une coalition, bon, il y en a une nationale, on en a une aussi régionale, qui regroupe autant des syndicats, le milieu étudiant, ça regroupe le milieu communautaire, les groupes environnementaux, les groupes de femmes, etc. Cette coalition-là, ce qu'elle propose, c'est de retourner à des mesures fiscales qui sont progressives.
Ben
et des choix, il y en a un paquet.
Oui, c'est ça. Écoute, moi, je m'y connais bien pour la hausse des prêts de scolarité et tout ça, mais j'ai entendu dire là, qu'il y avait beaucoup d'autres moyens d'aller chercher de l'argent à des places où il y en a, là, puis de la réinjecter dans l'État pour qu'ensuite, il puisse avoir des mesures sociales adaptées aux besoins de la population puis qui mettent l'avant les droits de la personne. Toi, je pense que tu as de l'information là-dessus. Ça me dit, je me trompe?
Non, tu te trompes pas. J'ai beaucoup d'informations là-dessus. Je vais vous donner quelques exemples de choix que le gouvernement pourrait faire. En ce moment, on permet aux gens de mettre jusqu'à 22 000 $ par année de leurs revenus dans un REER. Est-ce que tu sais c'est quoi le principe d'un REER?
Ben écoute, je ne sais pas beaucoup de choses là-dessus, mais est-ce que ça a rapport avec qu'on ne paye pas d'impôts sur REER ou quelque chose en ce type-là?
Oui, un petit peu. En fait, les REER, c'est ce qu'il faut savoir, là, ce qui est le plus important à retenir, c'est que les REER, c'est de l'argent qu'on se met de côté pour notre retraite.
Ah.
Et cet argent-là, on la met de côté, puis tant qu'elle est dans ce fonds-là, on ne paie pas impôt dessus. On va payer impôt sur cet argent-là lorsqu'on va la prendre. Donc, quand on n'aura plus de revenus, on va avoir pris notre retraite, on n'a plus de revenus, on prend cet argent-là, puis on paie impôt là-dessus. Normalement, ce que les gens se disent, c'est si là, mettons, je gagne 50 000 $ par année, je mets de l'argent dans mes REER, l'année où je vais prendre cet argent-là, je vais payer impôt sur un revenu qui va être beaucoup moins que ce que j'ai là. Là. Rendu à la retraite, souvent, le revenu diminue. Alors, ça, bon, ça, jusque-là, ça va, c'est c'est très bien. Mais est-ce que tu connais quelqu'un, Simon, qui, autour de toi, a les moyens de mettre 22 000 $ par année dans des REER?
Et moi, les personnes que je connais, ils n'ont pas vraiment la possibilité même de mettre à peine d'argent dans leur REER.
La moyenne des Québécois et des Québécoises donne en moyenne là, 2 à 3 000 $ dans leur REER par année. Une personne qui met 22 000 dans sa REER, c'est une personne qui évite de payer d'impôts et qui pourrait probablement se permettre d'en payer davantage.
Ben oui.
Alors nous, ce qu'on propose, c'est entre autres de ramener ce plafond-là à 12 000 $. Alors, il y aurait quand même de l'impôt qui il y aurait quand même... L'État ramasserait davantage de revenus d'impôts, ben oui, ben on oui. s'entend, sur tous ces 10 000-là. Uh-huh. Puis là, je vais vous donner la somme totale d'argent qu'on pourrait récupérer. On parle d'un 300 millions de dollars juste avec la diminution du plafond de REER. On pourrait également ajouter un palier d'imposition.
Okay.
Dans les années 80, les Québécois et les Québécoises étaient taxés jusqu'à un peu plus de 40 %. Ça, on s'entend, c'est les gens les plus aisés, mm-hmm. puis c'est la portion de leur revenu le plus élevé. Hein. Puis ça, c'est un concept, je vais essayer de le vulgariser, j'ai un peu de misère, vas-y. Tu me diras si c'est pas clair. Vous savez que les premiers 10 000 $ que vous gagnez au Québec ne sont pas imposés. Peu importe que vous fassiez 1 million ou que vous en fassiez 11 000, les premiers 10 000, vous ne paierez pas d'impôt là-dessus. La braguette entre 10 000 et, là, je donne un chiffre fictif, je n'ai pas exactement les chiffres, et, mettons, 16 000, va être imposée à 12-10 %. L'autre braguette plus élevée va être imposée davantage, etc. Fait que quand on parle de rajouter un palier d'imposition, c'est que, je vous donne un exemple qui n'est pas fictif, c'est ce qu'on propose, Tous les revenus qui dépassent 120 000 $ par année seraient imposés à 24 %. En ce moment, c'est 23 % maximum. Puis nous, ce qu'on propose, c'est à court terme d'augmenter d'un palier, puis ça pourrait nous permettre d'aller chercher 950 millions de $ par année.
Okay.
Puis à long terme, ce qu'on propose, moyen-long terme, on s'entend, rétablir un système qui compterait 10 paliers d'imposition.
Okay.
Puis là, de monter jusqu'à 29 % d'imposition.
Dans le fond, là, si je comprends bien, là, la personne qui gagne 150 000 $ dans une année,
mm-hmm.
elle ne paye pas, disons, 20 % sur de son premier dollar jusqu'au 150 millième.
Non, c'est ça. Elle ne paye pas 20 % d'impôt sur 150 000 $ Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne.
Okay.
Elle paye 20 % d'impôt sur la braguette de son revenu la plus élevée.
Comme de la dernière couche, dans le fond.
Exactement. Okay. Mettons les 20 derniers 1 000 là, qui sont supplémentaires.
OK, c'est plus clair, non? Tu as expliqué ça clairement, j'ai bien compris.
Oui, en tout cas, si jamais pour les auditeurs, les auditrices, c'est pas clair, rappelez-nous à la trouvette peut-être que de 1 à 1, on pourra répondre à vos questions.
5, 6, 6, 27, 27.
On vous le répétera tout à l'heure. Alors, si on ajoutait 10 paliers d'imposition, on s'entend, on irait chercher 1,3 milliard de $ pour une province, c'est énorme. Là.
Là, moi, à chaque fois que tu donnes les chiffres comme ça, moi, je vois la gratuité scolaire là-dedans. Là, tu sais, 1,3 million, là, tu l'as deux fois, tantôt 300 millions, tu l'as deux fois et demi, tu sais, ça va vite.
Exactement. Oui, effectivement. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est ça, mais c'est aussi le système de santé. Tu sais, avec 1,3 milliard, là, c'est la gratuité scolaire, c'est le système de santé, c'est tu sais, un paquet d'affaires qu'on pourrait se permettre d'offrir à notre population. Puis l'impôt, c'est une mesure de justice sociale. C'est comment redistribuer la richesse. Il faut toujours se rappeler qu'une personne qui fait beaucoup de sous parce qu'elle est propriétaire d'une entreprise, son entreprise, elle a des employés. Mm-hmm. Il y a des gens qui ont travaillé à produire cette richesse-là, puis c'est important de la redistribuer. Cette richesse-là, elle a probablement été faite avec des ressources naturelles, un bien commun qui appartenait au Québec. Fait que pourquoi pas redistribuer cet argent-là?
Ben oui.
Si tu fais de l'argent avec notre hydroélectricité ou avec, tu sais, on parle de l'alcan, l'aluminium, etc., tu utilises nos ressources naturelles, tu pollues notre environnement, pourquoi ne pas redistribuer l'argent que tu fais avec ça? T'sais, c'est un peu inconcevable.
Oui. On pense aux travailleurs là-dedans qui, eux, mettent la main à la pâte pendant 30 ans dans une entreprise puis qui ont seulement des pinottes alors que l'autre, il se promène dans sa bagnole de luxe et dans c'est son ça. Immense maison, là, il y a une injustice. Là,
exactement. Il y a vraiment un effort à faire à repenser tout notre système. Là. On n'est pas en train de dire abolissons le capitalisme, là, mais quand même, revoyons. Puis c'est peut-être ça la solution aussi. Là. Je voulais juste vous dire qu'on n'est pas en train d'aller aussi loin, mais revoyons au moins notre système de fiscalité au Québec. Ça pourrait être.
Mettre un œil critique sur ce qui se passe. Ne pas avoir peur de regarder les choses autrement, puis de se dire, OK, est-ce que réellement je crois que ce fonctionnement-là est adéquat? Parce que c'est pas vrai qu'il y a une seule façon de fonctionner. Il y a plusieurs modèles de société. Le futur est encore inconnu, là.
Ouais. D'ailleurs, la gratuité scolaire dans d'autres pays, ça se fait, là. En Europe du Nord, etc., il y a d'autres façons de faire.
Le salariat étudiant est implanté, là, dans certains pays, là, nordiques, là.
Oui, donc dès que vous êtes inscrit à l'université, on vous verse un salaire.
On vous loge, on vous nourrit, là.
Simon, ce que je trouverais intéressant, c'est est-ce que tu crois qu'il y a moyen de faire reculer le gouvernement encore face aux frais, la hausse des frais de scolarité ou s'il est trop tard?
Oui, il y a une chose que je crois dure comme fer, là, c'est que le gouvernement, il a bien beau avoir toutes les instances de pouvoir et tout. La société, comment ça fonctionne, c'est les gens qui sont sur le territoire, c'est la population. Le politicien, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il s'amalgame à le mode de pensée pour avoir le pouvoir. Si ensemble on dit ce qu'on veut et qu'on veut autre chose que ce qui se passe en ce moment, les instances de pouvoir n'auront pas le choix de suivre parce que la société, c'est la population.
Si on prend comme exemple concret la commission d'enquête publique, ça a pris 2 ans à la population, mais Colin, on aurait quand même réussi à l'avoir. Là. Elle n'est pas parfaite, mais le gouvernement n'a pas le choix de reculer.
C'est un bon exemple. Tous les gains sociaux qui ont été faits, on s'entend, il y a eu des gains sociaux ici, on est beaucoup mieux au Québec que dans plein de places. Là, le système de santé, l'éducation aussi, mm-hmm. C'est pas parfait, mais c'est mieux qu'ailleurs. Puis ça a été gagné par des revendications sociales. On a juste regardé la Révolution tranquille. Les femmes n'ont déjà pas eu le droit de vote. Là, Il y a des progrès qui se font, puis ça se fait en revendiquant, ça se fait en s'exprimant, puis en allant dans le sens de ses valeurs.
Est-ce que les étudiants et les étudiantes ont prévu des mobilisations, des attroupements pour dénoncer la perte dont ils sont victimes en ce moment-là?
Le 10 novembre à Montréal, il y a une très grande manifestation étudiante sur la question des hausses de frais de scolarité.
OK. Et là, on s'attend à être des milliers dans les rues.
Plusieurs milliers.
Est-ce qu'il n'y a que les étudiants qui sont invités ou si les gens sont solidaires peuvent s'y rendre?
Tous les gens qui croient que l'éducation devrait être accessible, devrait être axée sur le savoir, la connaissance, l'innovation, devraient venir dans la rue et venir affirmer là, leur volonté d'un monde plus juste. Là.
Et est-ce qu'il y a des autobus qui sont fournis, j'imagine?
Oui, les étudiants, il y en a beaucoup depuis les universités, les cégeps, qui vont partir vers la manifestation à Montréal. Sinon, vous pouvez vous inscrire avec la Trovep. Il y a des autobus qui partent de la Trovep, et donc vous pouvez appeler, laisser votre nom au 819-566-2727. Je vais le répéter juste pour le fun. 819-566-2727.
Alors, vous n'hésitez pas sinon à taper sur Internet Trovep à commercial aide-internet.org puis envoyez-nous un message pour nous dire que vous serez présent dans l'autobus. Les départs, on ne peut pas vous confirmer d'où ils vont être, mais on sait qu'ils vont être autour du centre-ville de Sherbrooke. Et normalement, on fournit le lunch. Là, fait qu'il n'y a pas de frais. Ouais. Et puis, il n'y a pas de frais aux autobus. Là. Vous arrivez, vous embarquez. L'important, c'est que qu'on ne vous perde pas en chemin et qu'on puisse vous ramener. C'est juste ça qu'on vous demande.
Si j'ai jamais perdu, vous pouvez vous dire une personne sur tant de milliers ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que ça change au gouvernement ou quelque chose? Non, chaque personne est importante là-dedans. Là, ça représente une vie. Chaque personne représente une vie. Donc.
D'ailleurs, Simon, en 2003-2004, je ne suis pas très bonne dans les dates, le gouvernement avait annoncé une coupure de 103 millions de dollars. Mm-hmm. Puis les étudiants sont sortis à coups de dizaines de milliers d'étudiants dans les rues. Puis on n'a pas tout gagné, mais le gouvernement quand même a reculé sur certaines de ces coupures-là. Fait qu'on voit qu'effectivement, ça peut rapporter de se mobiliser. Fait qu'on vous rappelle une dernière fois que vous êtes tous et toutes invités à vous mobiliser contre la hausse des frais de scolarité. Il y a une grosse manifestation le 10 novembre. Si le gouvernement n'entend rien, j'imagine qu'il va y avoir d'autres actions.
Oui, écoute, c'est une escalade des actions. Il y a beaucoup d'étudiants en ce moment qui sont très, très, très motivés à faire le maximum en leur pouvoir là, pour faire reculer le gouvernement sur ces mesures-là qui sont à l'encontre des engagements du Québec, le prix des années 1970 là, pour un monde plus juste. Là, c'est,
C'est un dossier qui est à suivre. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous contacter. Pardon. Et on vous rappelle que l'émission La complainte du travail vous sera présentée dans 2 semaines. Le sujet, on le laisse en suspens. On laissera ça à la coordonnatrice le soin de vous l'annoncer. Si jamais vous voulez en savoir plus sur les alternatives fiscales et économiques que la Coalition contre la tarification et la privatisation suggère, n'hésitez pas à contacter Solidarité populaire Estrie. Vous pouvez encore une fois nous rappeler à la Trovep, on vous donnera le bon numéro, là, je ne l'ai pas en tête, mais où aller taper Coalition contre la tarification privatisation sur Internet, vous allez arriver avec le document d'analyse. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Alors, sur ce, on va se quitter en musique. On se fait un doublé. On retourne avec Olivier Brousseau. Ça va être ça pour aujourd'hui. Avec la chanson « Le chêne ». Et tout à l'heure, en passant, on a écouté chez le grand Gosselin, pour ceux et celles qui ne l'avaient pas reconnu. Alors,
Donc, juste avant de partir en musique, moi, j'aimerais dire à tous que le futur n'est pas encore écrit. Il y a toujours moyen de croire en quelque chose, même si ça peut paraître utopique pour certains. Mais ce qu'il faut faire, c'est imaginer, penser à des solutions, en parler, puis faire tout ce qui est en notre possible pour aller vers quelque chose de mieux en ce moment. C'est possible.
Effectivement. Mobilisons-nous. Simon, ça a été très agréable. Je te remercie.
Pareillement. Vraiment. Merci, Samedi.
À bientôt.
un chêne en gage de notre avenir.
J'ai planté un chêne en gage de notre avenir.
Racine de nos mémoires, il berce tous nos souvenirs.
Racine de nos mémoires, il berce tous nos souvenirs.
Il est si haut, il est si fort que jamais il ne tremble. Même les grands froids, même les orages n'ont jamais pu l'affaiblir. J'ai planté un chêne en gage de notre avenir.
Chêne